Voilà, pendant ce temps-là, Agnès, est-ce que tu as pu regarder des questions, relever des questions avec l'aide de Valérie et de Noël dans le chat à l'ouest?
Bonsoir, re-donc. Et donc oui, bien sûr, je commence à regarder les questions. Je vais commencer donc par redonner la citation d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est « Il n'y a pas d'erreur, pas de coïncidence. Tous les événements sont des bénédictions qui nous sont données pour que nous apprenions. » Voilà. Ensuite, donc je regarde aussi en même temps. Alors, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, donc c'est vrai que c'est pas évident de faire le tri. J'en ai vu une qui était de Choui, qui était au tout départ. J'espère que Choui a eu quelques réponses donc pendant la conférence, puisque donc sa question c'était le manque d'enthousiasme, la déprime suite à une déprime. Donc pour moi effectivement. Le fait de faire des phrases le matin, ça revient aussi dans les questions. C'est vrai que le décider de faire des phrases le matin, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important parce que quand on se réveille, on se réveille avec sa to-do list, c'est de l'anglais pour dire la liste de tout ce qu'on a à faire, mais on se réveille aussi avec une idée de ce que va être la journée. C'est-à-dire
Oui.
que on se dit, par exemple, ma journée, je vais travailler, je vais faire ceci, je vais faire cela, et on enferme notre journée avec son niveau d'enthousiasme, son niveau de bonheur. On l'enferme par rapport à la veille aussi, enfin par rapport aux journées qu'on connaît. Et donc c'est vrai que de faire ces rondes, ça permet d'avoir, voilà, d'ouvrir son potentiel. Ça a été dit plusieurs fois dans les conférences aussi jusque-là, de revenir dans le présent et d'ouvrir son potentiel parce que chaque journée est nouvelle. Et donc, on peut y trouver beaucoup d'enthousiasme, mais c'est vraiment une décision. Comme j'ai dit, c'est vraiment une décision. Donc, on peut, dans les rondes du matin, décider de s'ouvrir à plus d'enthousiasme, par exemple. Donc, ça, c'était pour la question de Tchoui. Je vais regarder d'autres questions.
Ben, ça serait intéressant si Choui est encore là. J'avais pas vu la question au début. Si cette personne est encore là, ce serait intéressant d'avoir un retour justement après, ne serait-ce que ces quelques rondes de démonstration qu'on a fait. Comment ça va maintenant? Voilà,
Alors,
un petit appel. Alors, d'autres questions?
oui, alors donc là, je les lis, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment bien les voir. Je vois les commentaires surtout, donc si vous pouvez m'aider à trouver les questions aussi, voilà, ça peut m'aider à les ressortir.
Oui, on cherche en même temps
Voilà.
l'exemple de la violence et la colère.
Excuse-moi, Maria, je n'ai pas entendu, je peux parler en même temps.
Oui, alors, Talicia, merci pour cette joie qui est présente. L'exemple de la violence et la colère, je demeure dans la compréhension de l'autre, pas de colère et peu d'émotion. Comment faire quand on est peu connecté à ses émotions? Enfin, c'est ça la question que je comprends derrière cette
D'accord.
remarque.
Peu de colère, c'est ça?
Oui.
Alors effectivement, l'idée déjà c'est de voir s'il y a une peur derrière, parce que derrière la colère, souvent il y a une sensation donc d'avoir été déçu, c'est peut-être une autre sensation qu'il y a derrière. Donc si je comprends bien la question, c'est de ne pas vraiment ressentir l'émotion, donc peut-être aller voir derrière qu'est-ce qui se cache. Et souvent, pour moi, derrière une colère, il y a une déception, il y avait une attente envers quelqu'un, et il peut y avoir une déception de quelque chose qui a été fait. Donc, ça peut être une piste de réponse. Une peur aussi, souvent, quand on décortique, il y a souvent la peur derrière aussi. Donc, voilà, je dirais ça pour cette question. Je ne sais pas, Maria, si tu penses que je réponds suffisamment.
Oui, c'est vrai que la question n'était pas très clairement formulée. Donc oui, c'est bien répondu. Alors une question un peu semblable de la part de Caroline, enfin c'est dans l'autre sens plutôt. Que faire quand une émotion est si forte qu'une ronde ne fait rien?
Alors là, je dirais que, comme nous a dit tout à l'heure Yves Vautier, c'est important parfois d'aller voir un praticien en EFT, parce que parfois on s'attaque à des sujets qui sont trop forts, justement, et donc si une ronde ne fait rien, moi je dirais déjà d'accueillir et d'accepter l'émotion qui est là. Donc de tapoter pour accueillir et accepter l'émotion qui est là. Parce que bien souvent, on voudrait qu'elle disparaisse et on fait une ronde pour qu'elle disparaisse. Et donc si on fait une ronde déjà pour l'accepter, pour être là avec elle, ça peut déjà être énorme. Pour voir peut-être quand est-ce qu'on l'a ressenti la première fois, on peut aussi se demander, et il me semble que c'est Noël Cassan qui avait proposé ça, quand est-ce que la première fois, quel est l'âge de cette émotion? Quand est-ce que pour la première fois, on a ressenti cette émotion? Et si toutes ces pistes ne suffisent pas, je dirais que ça peut être bien d'aller voir quelqu'un.
Oui, tout à fait. Alors, une question de Sandia. Est-ce que vous pouvez résumer le protocole que vous proposez sur le choix entre la peur et la confiance?
Oui, tout à fait. Alors, donc l'idée d'abord, c'est, donc comme je le disais, c'était de prendre nos émotions comme un outil. Donc d'abord de se demander comment je me sens et d'être très précis dans la réponse. Donc comment je me sens, de trouver donc l'émotion qu'il y a derrière. Donc premièrement, trouver l'émotion qu'il y a derrière, l'identifier et la mettre en formulation. Donc si c'est de la colère, de la tristesse, etc. Deuxièmement, donc de voir la peur qui se cache derrière, parce qu'il y a souvent une peur sous-jacente, et encore une fois, Noël nous a bien montré toutes les peurs qu'il pouvait y avoir, toutes les peurs donc cachées aussi. Et ensuite, de voir même dans l'instant, quand on a très très peur, voir que cette peur en fait, on la cale entre le, elle a soit existé avant, soit après, mais elle n'existe pas vraiment tout de suite. Et donc voir que dans l'instant, si vraiment on reste dans l'instant, cette peur n'existe pas et qu'on a le choix de retrouver la confiance, pardon. Et c'est vrai que je bafouille avec confiance, mais parce que justement, et c'est en ça pour moi que l'EFT est une clé énorme, en tapotant, on revient dans le présent. Et ce qui nous fait avoir peur, ce qui nous fait donc être dans une émotion négative, c'est souvent cette perte de connexion avec le présent. Donc voilà, si j'ai bien résumé mon protocole, là, je ne sais pas, Maria, tu me dis aussi.
Oui, une fois de plus, c'est d'une part accepter ce qui est là et prendre la décision d'agir quand même, enfin d'avancer quand
Voir que la
même.
peur n'est pas réellement là, on a peur que quelque chose arrive, mais cette peur n'est pas réellement là maintenant. Et choisir d'avoir confiance, choisir que voilà, cette confiance est là. Même si on ne la ressent pas tout de suite, j'ai vu passer une question tout à l'heure qui disait, mais comment on peut dire que la confiance a toujours été là? Pour moi, justement, c'est un peu le but, c'est de dire que la confiance, c'est notre état naturel, elle est toujours là, toujours, toujours, toujours là, toujours présente, sauf si on est connecté à notre mental. Et donc, si on arrive à lâcher le mental et à se reconnecter à ce qui est là maintenant, à être présent à ce qui est là maintenant, on peut reprendre le choix de cette confiance et la ressentir.
D'accord. Alors,
D'autres questions? Parce que je suis un peu perdue entre la lecture de tous les commentaires.
oui, ça défile vite. Peut-on tapoter pour une autre personne qui ne veut croire à aucune méthode énergétique? Ça, c'est magnifique, tu poses la question, mais j'en ai vu une autre passer aussi tout à l'heure pour un fils qui ne voulait pas en entendre parler.
Alors c'est une très très bonne question qui m'est souvent posée, souvent par des mamans pour leurs enfants notamment adolescents qui sont dans des périodes un peu difficiles. Alors oui, bien sûr qu'on peut tapoter pour quelqu'un, mais la première chose que je dis toujours à ces personnes et notamment à ces mamans, c'est de d'abord tapoter sur elles et sur leur volonté que l'autre change pour elles être bien. Donc la première des choses quand on veut tapoter pour quelqu'un, c'est de d'abord tapoter pour soi et voir en quoi le comportement de cette personne nous dérange et comment est-ce qu'on pourrait justement lâcher notre volonté à nous que cette personne change, voir ce qu'elle fait résonner en nous finalement et comment elle peut nous faire grandir aussi. Et généralement, généralement à la fin de ce tapotage, on va arriver à notre propre confiance en nous-mêmes et à la confiance qu'on peut donner à l'autre. Et voilà. Et ensuite, on peut effectivement tapoter pour l'autre, mais toujours commencer par soi, toujours commencer par déblayer chez soi.
Oui, tout à fait. Parce que souvent, quand on a envie de tapoter pour quelqu'un d'autre, c'est ce que je rencontre aussi avec les personnes que je suis. En fait, ce n'est pas toujours sincèrement pour l'autre personne.
C'est
En tout
ça.
cas, il y a une grande part de responsabilité aussi chez nous.
Voilà, c'est généralement pour nous être bien, on voudrait que l'autre change pour nous retrouver notre zone de confort, et ça vient justement titiller notre volonté de contrôle, et notre difficulté à faire confiance aussi. Donc pour moi, c'est vraiment très important de commencer par soi,
Oui.
c'est par accepter l'autre tel qu'il se présente à nous. Et ensuite, bien sûr qu'on peut l'aider. Je ne sais plus dans quelle conférence quelqu'un de poser cette question-là, justement, de est-ce qu'on peut tapoter pour quelqu'un d'autre et lui envoyer des bonnes ondes? Et c'est Gary Craig qui disait, quand on pense en mal de quelqu'un, on ne lui demande pas son avis. Donc,
Oui, tout à l'heure. C'était hier soir avec Stéphanie, oui, qu'on parlait de ça.
effectivement, voilà, je pense qu'effectivement, on peut tapoter pour quelqu'un, mais toujours reprendre sa part de responsabilité et aussi toujours voir que le monde extérieur vient nous faire raisonner et que donc si l'autre vient nous faire raisonner, c'est pas pour rien. Donc voilà, tapoter sur soi. J'ai vu passer une question de Platinium. Je n'arrive pas à me débarrasser de la peur du vide, donc d'être seule. Alors je ne sais pas si c'est être seule au sens célibataire. Mais bon, en tout cas, si c'est la peur du vide existentiel, c'est pas la même chose. Si c'est la peur du vide au niveau être célibataire, donc ce sont deux questions différentes. Dans tous les cas, la solution est toujours la même pour moi, c'est-à-dire qu'il faut donner un sens à sa vie. Ça, c'est super important, surtout pour la peur du vide au niveau existentiel. Et par rapport à la peur d'être seule, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait on attire ce qu'on vibre. Et donc si on peut arriver à vibrer la confiance, l'amour de soi et la confiance sont, voilà, sont deux notions un tout petit peu différentes, mais c'est quand même un peu la notion pile et la notion face de la même chose. Quand on trouve la confiance, on trouve l'amour. Et quand on trouve l'amour de soi et qu'on la vibre, le premier bonus, c'est qu'on a moins besoin de l'amour de l'autre, mais surtout le deuxième bonus, c'est que généralement on l'attire. Alors comment faire et comment s'en débarrasser? Là, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que si vous y arrivez par vous-même, c'est très bien, sinon ça peut être bien d'aller voir un praticien qui, comme nous disait Yves Wauthier tout à l'heure, va avoir plus l'habitude de tirer les ficelles et de trouver le pourquoi ça bloque. Pour soi, généralement, on va s'arrêter là où ça fait mal. Et on a parfois du mal à aller jusqu'au bout du raisonnement. Mais il y a pour ces deux aspects, peur du vide et peur de rester célibataire, il y a bien sûr des solutions. Et voilà, c'est ça, trouver la confiance en soi, la trouver parce qu'elle est là, et la laisser vibrer à l'extérieur, la laisser rayonner.
Oui, et déjà prendre la décision que je vaux la peine de me débarrasser de ce problème.
Tout à fait, oui, tout à fait. Que je ne suis pas ce problème-là et que je peux m'en débarrasser, que ça n'est qu'un vieux programme que mon mental me répète.
Oui. Donc prendre la décision, une fois de plus,
Ah,
de commencer à transformer ça.
exactement.
C'est pas pour dire que ça sera facile et que ça passera en trois rondes de clé, hein? On est bien d'accord.
Tout à fait, tout à fait. Et la persévérance est vraiment quelque chose d'important. Je sais que j'ai pour quelques patients, quand ils viennent me voir en quelques séances, ça peut aller très très vite, ça peut se faire en trois séances, et parfois ça va beaucoup moins vite. Et on me dit, mais pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi ça marche pour les autres? Je sais pas si Maria, tu as eu ce genre de cas dans ta pratique, mais c'est vrai que parfois ça bloque. Et généralement, c'est quand on n'a pas eu un gros traumatisme, que quand c'est plusieurs petits aspects qui nous bloquent, quand c'est notre mental qui nous bloque, nos vieux programmes qui jouent en permanence. Et donc, c'est aller libérer chaque programme, reprendre conscience pour trouver la confiance. Et ça peut être plus long. Mais la persévérance paye toujours, toujours.
Oui, bien sûr. C'est toujours, il faut en savoir plus, il faut creuser les tenants et les aboutissants de chaque problème. On ne peut pas dire que, ah oui, d'accord, la peur du vide, ça te prend tant de séances, c'est impossible à évoluer à l'avance. Et deux personnes qui ont la peur du vide auront un parcours totalement
Différent.
individuel et unique, bien sûr.
Totalement différent. Je vois une question de Suzy. qui nous dit, je voudrais savoir où vous mettez la tristesse d'un deuil. De quelle peur s'agit-il? Alors pour moi, la tristesse d'un deuil, c'est la peur du manque et la peur de la séparation. Et là, vraiment, pour ça, ça revient à chacun de trouver une réponse à l'intérieur de son cœur. Et la question, la première partie de ma conférence s'adresse beaucoup à cette tristesse du deuil. Et comme je vous ai dit, moi, ma première rencontre avec le SP s'est faite autour d'un deuil. Donc, je connais bien cette question-là, puisque c'était le deuil que je faisais de mon mari. Et cette séparation qui paraît insurmontable. Mais encore une fois, quand on trouve la confiance, quand on trouve l'amour à l'intérieur de soi, cette séparation n'est plus vraiment réelle. Mais bon, là, c'est vraiment une question d'aller travailler ses croyances, d'aller trouver les croyances qui nous font du bien, trouver les croyances justement de qu'est-ce que c'est que la mort pour moi, qu'est-ce que c'est que la mort de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est que cette séparation, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et ça, donc, c'est un travail à faire avec un thérapeute ou à faire avec soi-même, mais voilà, c'est un travail extrêmement personnel. Donc, dans ces cas-là, moi, je m'appuie toujours sur les croyances de chaque personne, et on peut voir, et c'est ça qui est très intéressant, que toutes les croyances se recoupent généralement, et qu'on peut trouver des points communs dans toutes les croyances. Donc, voilà, moi, je peux vraiment utiliser les croyances de chacun pour trouver quelque chose qui va aider et qui va donner un peu de lumière, enfin, beaucoup de lumière même et beaucoup de bonheur, même lors d'un deuil.
D'accord.
Parce que la mort fait partie de la vie, parce que même si dans notre société, on s'est coupé de la mort et que la mort ne fait plus partie de notre vie, qu'on l'a éloignée de notre vie, de toutes les façons possibles, qu'on ne veut pas la voir, elle vient quand même nous frapper. Notre première et seule certitude, c'est qu'on va tous mourir. Et donc la mort est vraiment quelque chose de réel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les séances. Donc je remercie Suzy pour cette question.
Et c'est vrai aussi qu'Agnès, si je peux me permettre, hein, c'est Noël à l'antenne, Elisabeth Kübler-Ross a écrit des livres fantastiques
Tout à
pour
fait.
apprivoiser justement le deuil.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, il y a des lectures qui aident énormément et Elisabeth Kübler-Ross en fait partie. Tout à fait. Merci Noël. Si vous
Alors, une
voulez.
question de maths. Ça sera peut-être pas la dernière, mais on va commencer à penser à boucler la
À y
séance.
réfléchir.
Matt pose la question, pouvez-vous développer le lien entre le contrôle et l'abandon?
Ah oui, alors ça, je ne sais pas si ça va pouvoir être un lien rapide,
Oui,
mais.
effectivement.
Je remercie pour cette question qui est le contrôle et l'abandon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est une notion qui me vient de la méthode Sedona. Et effectivement, on a tous une volonté de contrôle en nous qui va avec la volonté d'abandon. Ça paraît les opposer, mais en fait, c'est la même énergie, vouloir contrôler l'autre ou l'abandonner. D'ailleurs, généralement, quand on veut contrôler l'autre, si on n'arrive pas à le contrôler, on a un peu envie de lui dire, bah, vis ta vie et va ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis. Et donc, c'est vraiment la même énergie qui va aussi avec l'énergie de quand on veut contrôler l'autre, l'autre ou son espace, hein, étant d'un naturel maniaque pour les gens qui me connaissent, la volonté de contrôler son espace va avec ça aussi, de vouloir faire le ménage. C'est aussi une façon de contrôler les choses. Et donc, ça va aussi avec la volonté d'être contrôlé, ces trois aspects. Volonté de contrôle, volonté d'abandon et volonté d'être contrôlé. Donc que l'autre nous porte et nous soutienne et nous porte. Et l'opposé de ces trois énergies qui sont donc la même, c'est la confiance, encore une fois. Parce que quand on veut contrôler l'autre, ça vient souvent nous titiller avec les enfants. Et on a l'impression d'être dans notre bon droit quand on veut contrôler ses enfants. Quand ils deviennent adolescents, on a plus envie de les abandonner. Je ne sais pas si pour les mamans si ça leur parle, mais il y a vraiment ces deux notions qui jouent tout le temps en parallèle. Le plus, enfin voilà, vouloir contrôler, vouloir abandonner, si on tapote, si on va vraiment au bout des choses, on va voir qu'il y a une peur derrière, donc une peur de pas avoir un ascendant super, enfin, pas avoir le contrôle justement, pas, et on n'a pas tellement envie d'abandonner non plus. Et quand on tapote, justement, l'idée c'est de choisir la confiance. Parce qu'on a peur, quand on contrôle c'est qu'on a peur, quand on abandonne c'est qu'on a peur. Donc derrière, le choix toujours, c'est la confiance. Confiance en soi, donc d'être là au bon moment et de savoir réagir bien pour ses enfants. Je donne l'exemple des enfants étant maman, mais ça peut aussi être sur son conjoint ou ça peut être dans d'autres situations, avec des patrons ou en tant qu'employé. Et confiance en l'autre aussi. Confiance que l'autre est là et qu'on peut lui faire confiance. C'est pas une notion simple. Notamment là, comme je viens de parler des patrons et des employés, c'est pas une notion simple, mais c'est une notion importante. Et c'est une confiance dans l'être que l'autre est, pas dans le jeu qu'il joue, mais dans l'être qu'il est. On est tous des êtres de lumière, comme disait Noël dans sa conférence, et j'aime bien cette notion. C'est-à-dire qu'il faut c'est un peu ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre du recul, de la distance par rapport au rôle qu'on joue. Et cette notion de contrôle et d'abandon, voilà, rappelle aussi beaucoup ces rôles, les rôles qu'on joue. Donc voilà, et derrière la confiance, derrière le contrôle, c'est la confiance. L'opposé, le vrai opposé du contrôle, c'est pas l'abandon, c'est la confiance en soi et en l'autre.
D'accord. Donc,
merci.
Alors, une toute dernière question, Agnès.
Oui.
Est-ce que tu fais des consultations à distance?
Alors oui, je fais des consultations par Skype. Donc je fais des consultations à distance.
D'accord.
Voilà.
Bon, ben merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé ce soir. On va laisser le chat ouvert encore quelques minutes. Oui. Vous pourrez continuer à dialoguer avec Agnès dans le chat. Mais on va terminer la conférence. Merci à toi, Agnès, d'avoir été là.
Merci. Mais merci à vous tous. Merci de ne pas avoir écouté le conseil de Yves Vautier et d'être allé vous éclater tout de suite et d'être resté quelques-uns avec moi jusque-là.
Donc, ah, c'est pas les mêmes, tu sais. Là, les gens qui sont dans la salle, il n'y en a aucune qui était là à 19h. Ils sont tous partis.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui sont restés. Merci. Et merci à Maria et à toute l'équipe d'avoir mis ces conférences, d'avoir rendu ces conférences possibles. Merci beaucoup.
C'était un enregistrement du congrès virtuel francophone de EFT. Pour en savoir plus sur cet événement annuel, rendez-vous sur le site www.lecongrèseft.com. À très bientôt!